France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on referme une année télévisuelle, est-ce qu'on peut encore dire télévisuelle, je ne sais pas, mais je le tente, qui a été dense, surprenante, parfois chaotique, souvent brillante. 2025, c'est l'année où des séries qu'on croyait installées ont tout remis en question, où des créateurs et créatrices ont pris tous les risques et où les plateformes ont visiblement décidé de ne plus jamais nous laisser dormir. De Severance à White Lotus en passant par Stranger Things, The Pit ou encore, bref, l'offre a été pléthorique et je me suis donné la lourde tâche de tenter une émission récapitulative. Pour cela, je ne suis évidemment pas seul, comme le personnage de Danny Ocean dans ce film de braquage de Steven Soderbergh sorti en 2001. J'ai réuni une équipe de qualité supérieure. D'abord, Anaïs Bordage, journaliste indépendante, présentatrice du podcast Anaïs se fait des films. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Et ensuite, Olivier Joyard, émérite journaliste aux Arocs. Comment ça va ?
Bon, ça va, Mehdi.
Bon, merci d'être là. Avec vous deux, on va revenir sur les séries qui ont marqué 2025, les confirmations, les déceptions éventuellement, les ovnis, les tendances qui se dessinent, les acteurs et actrices qui ont explosé, les plateformes qui ont gagné, celles qui ont pataugé. On va tenter de ne pas spoiler, mais on ne promet rien. Le grand récap des séries 2025, c'est tout de suite à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Alors Anaïs, Olivier, on en a un petit peu parlé en antenne, il y a eu énormément de choses cette année, de très bonnes choses, des choses moins bien, mais en tout cas beaucoup de choses à regarder. On va évidemment pas réussir à être exhaustif, on va quand même prendre certains partis pris, notamment parler de séries qui je crois vous ont plu à tous les deux et qui semblent aussi assez inévitables. Et j'aimerais peut-être commencer presque, non pas par le commencement mais par la fin, c'est-à-dire quelque chose d'assez récent, c'est Pluribus, qui est donc série par le fameux créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan, dont beaucoup de gens parlent, même ici dans cette émission, pas mal d'invités qu'on a reçus récemment, la cite déjà en recommandation, on sent qu'elle a marqué. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette série et en quoi elle vous semble importante, Anaïs ? Parce que vous avez tous les deux, je crois, été marqués par ce début de série.
Oui, bah c'est un peu la pépite de fin d'année qui arrive comme ça et qui change tous les tops de fin d'année. Moi, j'aime beaucoup Breaking Bad, mais j'aime aussi énormément Better Call Saul.
Certains disent que certains préfèrent Better Call Saul à Breaking Bad.
C'est mon cas. C'est ton cas. C'est totalement mon cas. Et je pense que ce qui me plaît énormément dans Pluribus, c'est avant tout la performance de Rhea Seehorn, qui était la révélation de Better Call Saul. Ouais. On sent que Vince Gilligan s'est dit, bon, il faut que je lui fasse sa propre série et que je la laisse briller à 1000%. Et c'est exactement ce qui se passe. Et évidemment, il y a aussi le fait que c'est une série très contemporaine, qui est marquée par tout ce qu'on a vécu ces dernières années, le confinement, les virus, le sentiment d'isolement très très fort qu'on peut ressentir, et aussi la division, la polarisation politique très très forte qui est anéantie dans la série puisque tout le monde ne finit par former plus qu'une seule entité.
Oui, c'est ça exactement, c'est une histoire de cerveau connecté si je ne dis pas de bêtises, enfin, j'ai pas encore regardé moi.
J'ai toujours pas compris hein, mais c'est pas si grave en fait.
Oui, d'accord. Non, mais
c'est une histoire de virus qui comme ça décime la Terre en rendant tout le monde heureux, un peu moutonnier, sur le même, comme ils parlent tous de la même manière,
ça fusionne. Toute la conscience de tout le monde est fusionnée en une seule et même conscience. Et donc, je sais exactement, j'ai le ressenti, les souvenirs et les compétences, par exemple, que toi, tu as aussi, et que toi aussi, tu as, Olivier.
C'est une forme d'intelligence commune partagée.
Sauf que c'est un virus gentil.
Ça pourrait être un gadget. C'est un truc de science-fiction, je dirais, assez classique, finalement. Quoi. Sauf que ce que Vince Gilligan fait, c'est une vraie... une inspection morale, en fait, de ce qui se passe en Amérique aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, ce que tu dis. Disait Anaïs, ces sentiments de solitude et de polarisation qui sont extrêmes. Et c'est vraiment une série extrême de tous les points de vue. Extrême dans la performance de l'actrice principale qui joue Carole. Extrême aussi dans la façon dont Gilligan se dit, moi, je fais comme si j'habitais en 2007. Comme si je vivais il y a 15-20 ans pour les séries. Hein.
Oui.
C'est-à-dire, moi, je fais les trucs comme je veux. Comme un auteur, c'est-à-dire on parlait de séries d'auteurs dans les années 2000, donc Breaking Bad est né en même temps que Mad Men, donc c'était vraiment ça qui était au goût du jour. Aujourd'hui, c'est plateformisé à mort, donc on se retrouve dans quelque chose qui est très très différent, et lui, il a carte blanche. Il est sur Apple TV.
Parce que Breaking Bad, parce que...
C'est ça, il a la carte, quoi. Il a la carte, mais il en fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il ne se repose pas du tout sur ses lauriers. Mmh. Déjà, il avait, je dirais... terminaliser le héros masculin toxique avec Breaking Bad, ouais. puis Better Call Saul. Et là, évidemment, il passe à une héroïne.
Oui, c'est ça. On passe de l'anti-héros à l'anti-héroïne. Ouais. Ça aussi, c'est hyper contemporain.
C'est très contemporain. Et puis, chaque épisode est hyper différent. Enfin, le premier est presque, un film apocalyptique en miniature, comme ça. Et ensuite, il y a des choses beaucoup plus... Il y a un truc dans la jungle, une espèce de voyage qui se passe vers l'épisode 5-6. Il y a plein de choses très différentes. C'est très, très riche.
T'as dit quelque chose, une série d'auteurs, et t'as cité Apple TV. On pourra après parler des plateformes, notamment avec d'autres séries qui ont notamment été produites par Apple TV, qui est une plateforme, mais qui est aussi un studio, en fait, Apple TV, ouais. puisqu'ils produisent vraiment des choses. Et c'est intéressant parce que... aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que beaucoup de séries sortent comme ça, et on entend de plus en plus cette idée comme quoi Apple TV, c'est presque, c'est le nouveau HBO, qui était cette chaîne qui a sorti beaucoup de très bonnes séries dans les années 2000. Je sais pas si c'est vrai, Olivier, je te vois grimacer, mais en tout cas, est-ce que vous avez le sentiment, peut-être, que c'est la plateforme qui a cette envie un peu de proposer un contenu un petit peu qualitatif, supérieur, de sortir aussi peut-être moins de choses, parfois, mais plus qualitatif, et d'avoir peut-être une réflexion un peu presque à l'ancienne, comme une chaîne de télé des années 2000. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ça, ou pas du tout, c'est une plateforme comme les autres pour vous ?
Je dirais que ces dernières années, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de prises de risques dans la programmation de Apple TV, avec des idées qui auraient pu sembler peut-être moins grand public.
Ouais, on peut penser à Severance, par exemple, qui est une des autres grandes séries de l'année, avec la saison 2, qui était très attendue.
Très autorisante.
Exactement,
aussi. For All Mankind, pour moi, c'est une des meilleures séries de ces dernières années, et c'était aussi Apple TV, et c'était une série qui avait une ambition folle, et qui avait en même temps les codes de la télé à l'ancienne. Et c'est un peu ce que tu disais avec Vince Gilligan aussi, moi c'est ça que j'aime bien effectivement dans certaines de ces séries, c'est le cas de Slow Horses aussi qui est sur Apple TV, c'est des séries qui se souviennent de ce qui a fait la beauté des séries il y a quelques années. Après le nouvel HBO, enfin je pense que HBO reste le nouvel HBO.
Oui, HBO reste HBO.
Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des propositions intéressantes sur Apple TV.
Qu'est-ce que tu penses de ça, Olivier ?
Moi, je crois plus trop au fait qu'on puisse dire un studio créatif à l'ancienne. Enfin, je pense que Apple TV joue avec cette idée. Mais c'est... En fait, le secret, c'est d'accepter de perdre de l'argent. Donc, ils ont ces petits trucs qu'on a tous et toutes, presque, c'est-à-dire les iPhones, pour gagner beaucoup d'argent d'un côté. Ouais. Et puis, même si ce n'est pas des vases communicants exactement, je crois que ça se compte en plusieurs centaines de millions, les déficits annuels de la branche production de Apple TV.
D'ailleurs, on voit à chaque fois les castings sont souvent exceptionnels. Enfin, c'est vraiment, par rapport aux autres plateformes, effectivement, ils ne lésinent pas sur les moyens.
Non, ce n'est pas un modèle économique vraiment viable, en fait. C'est un moment qui se passe à Hollywood. C'est aussi une façon de profiter du bordel que c'est ailleurs. C'est-à-dire que, voilà, Netflix se sont remis un peu dans la vague, donc ça va, mais on voit que c'est l'explosion. Il y a eu une grève il n'y a pas si longtemps, il y a l'IA qui change tout, tout le monde s'interroge en tous les cas sur le fait que ça change tout. Il y a énormément d'incertitudes, il y a des baisses de production, en gros tout le monde est déprimé, et ils n'ont pas
Et tout le monde a peur de prendre des risques, et c'est peut-être ça qui leur permet de se démarquer à Apple, c'est ce que tu dis, ils ont l'argent qui leur permet de prendre des risques aussi.
Mais combien de temps ça va durer, franchement, je ne suis pas très optimiste.
Je propose qu'on écoute un morceau un peu plus optimiste que toi, Olivier. C'est le morceau d'un artiste suisse qui s'appelle Makala. Il vient de faire son grand retour. D'ailleurs, il vient d'annoncer un zénith, ce qui a surpris beaucoup de gens, mais il va évidemment le remplir. Le morceau s'appelle Hotel Yotsuya. Peu de rapport avec les séries dont on parle aujourd'hui, mais j'avais envie qu'on l'écoute. Makala, dans La Régulière.
Je suis revenu pour les Toti, Anna. Mais je suis prêt pour la bagarre, Anma. Je suis fidèle à la squadra, Toti. Jamais je peux oublier d'où je viens. J'espère que ça m'écoute dans l'allée. 300 pompes avant d'aller en allée. Elle me dit que je devrais plus compter sur elle. Je pose mes billets de son coq si ça sonne Luc. Oh, salut. Viens nous voir, on est posé dans le noir. Slim K, tire une light. Suis l'odeur ou la light, tu plaintes. Parle en bref gros, fais-nous pas un grunt. On l'a, on l'étale. L'étale, même avec l'étale. Parce que c'est par plaisir qu'on l'étale. Oh, je me lève. Quoi? Je rêve. Comment ça des factures dans ma boîte aux lettres? Qui augmente le tourisme à Genève. À chaque statue, je mérite une statue. J'espère que c'est clair, bitch. Bientôt je fais un feat avec toi. Ta carrière explose, je me réveille, fiche S. Je sais pas si on a des vies antérieures, mais je sais que je suis une merde dans aucune entre elles. Ok, sans aucune gangster. Quelques grammes, tu nous en fais des tonnes. Tu t'es pris pour un Tony, des Tony. Nous on te prend pour un Tommy, des Tommy. Un bouffon qui sait manger des pleufs atomiques. Personne t'écoute, ça t'étonne.
Y'a des rêves qui veulent quitter le rinté, mais le rinté est long comme dans Olive et Tom. Le monde est drivé par la folie des hommes. J'ai été élevé par la plus forte des femmes. Un seul de ses regards peut désarmer désormais. Tu comprends d'où je viens désormais. J'suis là pour régner des années et des années. Regarde en face et des années. Je vais remplir des bagues, faut garder vos bagues. On me drague, en plus c'est des femmes mariées qui me draguent. C'est quoi ça, je suis qui moi, le seigneur des anneaux? Non, mon karma, je dois penser à mon karma. J'ai déjà mon quota de rage qui regarde mal. Si tu trouves pas une raison de vivre, cherche pas une raison de me casser les couilles, putain. Tu m'as vu sur scène, je les fume, tu sais. Ceux qui s'aiment récoltent, je suis mon propre pote. Les venons pop comme bou, mais comme bouletier. Tu dis que tu kiffes la vérité. M'oblige pas à vérifier pour voir si t'es apte à parler quand. Si t'es pas là jusqu'à aller. Si tu veux mon sang, je te laisse le sucer. Nico, la flot, tu risques de glisser. Aujourd'hui, le vide est très bien habillé. Mais sans les caméras, il galère à briller. Alors que si le message est clair, le message est clair, les cœurs, mais y'a du chemin. Bande de slaves, personne va vous save. Cause de vous, les types restent type. Faut le dire, bien fort. Fausse hype, fausse trip. Cause de kick, le rap français est proche de la police comme Sting. Slim. Tire une ils vont veulent pas cette smoke, ok. Y'a beaucoup de médias qui sont bons. Pour gagner fort, mais ils le rap. Ils leur jettent des fleurs quand ils sont up. Mais quand les frérots perdent leur hype, tout d'un coup, ils nous parlent d'originalité. Le mainstream porte toujours le même string.
Makala, Hotel, Yutsuya. En attendant, j'espère un album à venir.
France Inter. Mehdi Maizi. À la régulière.
Nous sommes avec Olivier Joyard et Anaïs Bordage pour parler des meilleures séries de l'année 2025. Et vous m'avez tous les deux envoyé quelques coups de cœur. Et je commence avec toi, Olivier, parce que tu as parlé d'une série qui était elle aussi sur Apple TV+, et on vient de parler d'Apple TV, c'est The Studio. Je crois que tu as aimé.
Carrément, oui.
Anaïs,
oui.
Je crois que tu as moins aimé.
Ouais, on peut dire ça.
Donc, je ne vais pas sortir les gants de boxe. Mais en tout cas, c'est intéressant. Effectivement, je l'ai regardé également. J'avoue, subjugué moi par cette série. J'ai adoré la série, que ce soit sur le plan esthétique, j'ai trouvé ça drôle. Enfin, j'ai trouvé que c'était entourage en bien. Dans le casting. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, Olivier, dans cette série? Donc, de série de Seth Rogen et de Evan Goldberg.
Ouais. C'est ça, ils sont deux, ils sont assez amis depuis longtemps. Et Seth Rogen, c'est vraiment pour moi le point fort, le point d'entrée. Ça raconte comment une espèce de. Un jeune cadre dans un studio hollywoodien se retrouve propulsé à la tête de la création de ce studio, enfin la direction du studio.
Qui est l'équivalent d'un Paramount, d'un énorme studio comme ça.
Un peu. Pas vraiment par hasard, mais presque.
Ouais.
Et il n'est pas du tout prêt, et il a des rêves de grandeur, c'est-à-dire qu'il veut faire des films en plan séquence.
Oui.
Enfin, pas tout à fait, mais en tout cas, il se croit un peu dans les années 70. Quoi. Il y a quelque chose de vintage dans son approche du cinéma, puis en même temps, il se prend la réalité du marketing hollywoodien aujourd'hui, la réalité des tournages qui sont, pour le coup, absolument tous cataclysmiques. Et donc, la série, pour moi, était assez fine dans sa façon de sonder l'état d'une industrie. Moi, j'adore quand les séries, elles parlent de maintenant. Elle n'aurait pas pu être faite il y a 2 ans.
Oui.
Voilà. C'est
vrai.
Pour le coup, les séries, c'est fait pour ça, à mon sens. C'est-à-dire que ça intervient sur la culture au moment où elle se fait. Quoi. Et donc là, j'ai l'impression d'avoir une prise, quoi, d'être branché, une perf sur ce que c'est qu'Hollywood aujourd'hui. Ce n'est pas une série parfaite non plus. Il y a peut-être des traits de caricature qui vont un peu loin et qui du coup décrédibilisent le propos, mais malgré tout, d'une façon générale, je me suis beaucoup beaucoup amusé.
C'est amusant, et puis il y a
quand même ça assez cruel aussi.
Et puis il y a aussi un vrai amour du cinéma avec certains partis pris. Il y a cet épisode où il y a une forme de quête, je crois que c'est l'épisode avec Zac Efron, et du coup finalement tout est filmé comme un film noir des années 50 où Seth Rogen du coup un chapeau et un imperméable, et ça devient un détective. Et
ils s'amusent avec
rigolo.
Les gens.
Ouais, exactement.
Ils reçoivent des pitchs de la part de réalisateurs hollywoodiens pour faire les faux films qui sont à l'intérieur des nouveaux épisodes qui vont tourner.
Je sais pas si tu suis, mais...
Okay. Donc maintenant, tout Hollywood a envie d'être dans
le studio. Ouais. Anaïs, ça t'a un peu moins plu ?
Ouais, moi en fait, justement, ce côté caricatural dont tu parlais, Olivier, m'a un peu déplu. J'ai trouvé que c'était trop poussif, la petite batterie jazz en permanence derrière.
Enfin, oui.
Évidemment, c'est voulu, c'est censé être assez anxiogène, tout se passe toujours très mal. Mais je pense que c'est déjà un type de récit qui me plaît pas trop. Mais là, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu trop maximaliste. Et je voyais un peu trop l'intention, les ficelles en permanence. L'épisode que tu citais de film noir, c'est celui que j'ai le moins aimé.
Okay.
Parce que justement, je les voyais en fait dans leur petite salle de scénariste à se dire « Ouais, génial, on va faire un pastiche de film noir. Et donc, en fait, ça me sort du récit. J'arrive jamais à vraiment rentrer dedans. Je trouve que le personnage principal de Seth Rogen a un problème d'écriture. Ça me rappelle un peu le personnage de Steve Carell dans la saison 1 de The Office, où ils n'ont pas encore décidé si c'est un gentil bouffon.
Un mec sympa, oui.
Voilà,
oui.
Ou si c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement antipathique qu'on doit aussi détester. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai quand même hâte de voir la saison 2. Je sais que Seth Rogen a fait des repérages, notamment à Venise, à la Mostra. Donc, je pense qu'il va peut-être parler aussi du circuit des festivals. Mmh. Je suis assez intéressée de voir ça. Mmh. Et c'est vrai que tout le côté insider dont tu parlais, Olivier, me plaît bien. Mais c'est plus sur la forme. Je trouve qu'ils en font un petit peu trop. Et voilà, moi, c'était un petit peu trop agaçant pour que j'arrive à totalement rentrer dedans.
Alors, autre plateforme, Netflix, avec une série que tu as citée également, Olivier, mais dont on a beaucoup parlé en 2025, c'est Adolescence, donc série de Philippe Barantini. Tu l'as vu aussi, j'imagine, Anaïs, qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Qu'est-ce qui, là aussi, t'a plu dans cette série, au-delà peut-être notamment de l'aspect technique aussi?
Ouais, bah alors Barantini l'a juste réalisé, hein. C'est Jack Thorne et Stephen Graham qui l'ont créé ensemble, je crois, et produite, et Jack Thorne qui a écrit. Non, je dis ça parce que c'est vraiment une sorte de travail d'équipe un peu dingue.
Oui, ok.
Et c'est allé donc effectivement jusqu'au plus haut sommet de l'État, comme on dit. Hein. Je pense qu'ils vont infliger cette série à des ados en salle de classe maintenant. Enfin, c'est ce qui est censé être. Mais je me rappelle plus du nom de la personne qui est ministre de l'Éducation nationale en ce moment, parce que ça a changé récemment.
Exactement.
Et donc mais je sais qu'à chaque fois on parle de ça, et donc c'est vraiment aussi une série qui intervient dans la société.
Oui.
Moi, ce que j'ai trouvé fort, c'est que c'est la variété des 4 épisodes, donc c'est une mini-série déjà.
Exactement.
C'est-à-dire que ça n'y aura pas de saison 2 en tous les cas pour l'instant.
Et ça a été confirmé, je crois, qu'il n'y aura pas de saison 2, effectivement.
C'est vraiment le savoir-faire anglais à son meilleur, c'est-à-dire prendre un pan de la société, mettre à la fois une loupe et un miroir, et comme ça, gratter là où ça fait mal, quoi. Donc moi, j'ai trouvé, à part le dernier épisode que j'aime beaucoup, beaucoup moins, qui me semble complètement décalé, puisqu'il est, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, enfin, c'est pas si grave, on peut spoiler, on a le droit de divulgâcher, comme on dit.
Non, vas-y, fais-toi plaisir.
Ok. Olivier. Non, mais il se passe, alors que l'enfant est déjà plus avec ses parents, qu'il n'a plus le droit de les voir, l'enfant, donc ce jeune homme qui aurait commis un crime en assassinant une de ses camarades de classe. Et j'ai trouvé la série, en fait, très forte sur ce qu'elle raconte, plus de... Elle s'appelle Adolescence, et tout le monde a parlé de masculinisme, etc. Donc effectivement, c'est une grande partie de la série, mais cette espèce de distance qu'il y a entre le monde adolescent et le monde réel, ou en tout cas le monde des adultes, je trouve que la série est assez forte et assez fine pour à la fois filmer tout le monde en même temps, notamment cette scène incroyable entre père et fils dans l'épisode 2, où le fils explique Internet à son père, ou Instagram, ou les emojis, ce que ça veut dire en 30 secondes chrono comme ça. Moi, j'ai trouvé ça assez stupéfiant, donc ça fait vraiment du bien, une série Netflix qui comme ça intervient sur la société de manière aussi pertinente.
Et dont on a beaucoup parlé, on sent que ça a parlé à énormément de personnes et que ça a vraiment traversé effectivement notamment les générations. Oui. Anaïs, ça t'a aussi plu?
Non, pas trop, je suis vraiment...
Vous n'avez pas les mêmes coups de cœur,
la mauvaise langue, voilà, sur ces deux séries, mais j'ai été complètement frappée par le premier épisode que je trouvais très très fort, et je trouve qu'après ça dégringole un petit peu, et je pense que j'ai été aussi a posteriori un peu agacée par tout le discours qu'il y a eu autour, parce que je trouvais que la série ne décortiquait pas grand chose au final sur cette masculinité, et on en a fait beaucoup, effectivement, dans les médias sur tout ce que ça racontait, mais à part cette séquence dont tu parles, où il y a le décryptage des émojis que j'ai trouvé super. Ouais. Le reste de la série, pour moi, se résume à de très bonnes performances, et notamment Stephen Graham, mais aussi au gimmick du plan séquence.
Voilà, il faut le dire, c'est que tout est en plan séquence, donc on en a beaucoup parlé.
Et ça marche extrêmement bien dans le premier épisode. Ouais. C'est coup de poing, enfin tous les clichés un peu qu'on peut sortir là-dessus. Et comme tu le dis, Olivier, dans le dernier épisode, ça se justifie pas du tout. Et en fait, je ne voyais plus que la forme ou la tentative de faire rentrer le récit dans cet objectif de forme aussi, plutôt qu'un récit qui allait encore une fois me happer. Donc j'ai quand même été émue, j'ai un cœur, j'ai pleuré à la fin. Mais
moi, j'ai pas pleuré du tout.
Ah, donc tu n'as pas de cœur.
Non, j'aime pas cette fin. Mais c'est une fin de réconciliation étrange.
En fait, plus j'y pense, moins j'aime cette série, malgré l'effet très fort qu'elle m'a fait avec ce premier épisode. Je trouve qu'au final, on peut la montrer à l'école si on veut, mais je trouve pas qu'on y apprend grand-chose, en fait.
En tout cas, puisqu'on parlait de plan séquence, on a aussi beaucoup dans The Studio. Ce sont deux choses.
Il y a un épisode là-dessus. Ouais.
Exactement, que ces séries ont en commun. On continue à parler des séries 2025. Et je pense qu'il est temps de parler de la série de l'année, selon toi, Anaïs, tu l'as dit, c'est The Pitt, pour que tu sois plus positive aussi. Alors pour le coup, vous l'avez tous les deux cité, beaucoup de gens aussi on en parlait, c'est un peu une série, moi personnellement, que je n'avais pas vu venir, que j'ai découvert un peu sur le tard, avec un acteur qui s'appelle Noah Wyle, si je ne dis pas. D'ailleurs, parce que c'est une série qui se passe dans un hôpital, et je crois que ce qui est assez drôle, c'est que lui avait été connu essentiellement pour son rôle dans Urgence à l'époque, donc il est abonné aux hôpitaux en fait. Qu'est-ce qui vous a plu? Notamment, je crois qu'il y a une réalisation qui est finalement assez presque brute. J'ai pas vu la série, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait assez peu d'artifices. Mmh. Donc c'est vraiment la vie d'un hôpital dans quelle ville? À Pittsburgh.
À Pittsburgh, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et en fait, oui, c'est une série qui est très immersive. Encore une fois, comme The Studio ou Adolescence, on pourrait la résumer à son concept, c'est-à-dire que c'est juste une série qui se déroule sur une garde à l'hôpital. Donc c'est quasiment en temps réel. Et on va suivre les mêmes personnages de médecins, mais aussi de patients sur toute la saison, qui sont en train de gérer multiples cas qu'on va croiser dans un service d'urgence. Mais ce qui est très très fort, effectivement, c'est que le dispositif n'est pas trop frappe à l'œil. Et donc, on frappe à l'œil, c'est comme ça qu'on dit.
T'as pas l'œil sûr,
ouais,
mais
t'as pas l'œil. On a tous compris.
Il n'y a pas de musique. Il y a une réalisation, effectivement, assez immersive, mais pas trop dans l'esbrouf. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on s'attache énormément à tous les personnages. Et moi, je pourrais voir 12 saisons de The Pitt, s'il y en a. Un petit peu comme Urgence, d'ailleurs, à l'époque.
T'étais fan de Urgence aussi? C'est une série que t'aimais bien?
Oui, j'ai beaucoup aimé Urgence. Et c'est vrai que ça me manque, en fait, le fait de pouvoir m'investir émotionnellement dans une série sur plusieurs années, avec des personnages dont le destin va vraiment m'affecter. S'ils ont une peine de cœur, s'ils ont un problème de santé, ça va vraiment me toucher, comme c'était le cas quand je regardais des séries quand j'étais plus jeune. Et The Pitt réussit vraiment à faire ça. C'est pas une mini-série, c'est vraiment une série qui peut s'installer dans la durée. Et j'ai vraiment envie de voir ce qui va arriver à tous ces personnages dans la saison 2 et les futures saisons. Donc ça a très très bien marché sur moi.
Et pour les personnes qui ont regardé Urgence à l'époque et pas encore The Pitt, l'acteur jouait Dr. Carter, si qui est un personnage culte de la série.
Bah oui, c'était un des personnages principaux dès le pilote et qui est resté, je crois, durant les 15 saisons. Ça a été peut-être le seul acteur principal à rester. Et c'est vrai que j'espère qu'il y aura 15 saisons de Pitt. D'ailleurs, ils sont collés des procès quand même parce qu'on leur a dit, attention les gars, là, vous faites quasiment la même chose que nous. Mmh. Ça n'a pas marché finalement. Et ça reste donc une série qui raconte l'état de l'hôpital contemporain. Donc c'est très très... il suffit d'aller n'importe où en France dans un hôpital et on verra de Pitt également, d'une autre manière. Et c'est aussi construit sur la nostalgie des spectateurs et spectatrices qui ont connu Urgence. Et en France quand même, c'est assez particulier parce que je pense qu'on est beaucoup à être nés aux séries un peu modernes, contemporaines, avec Urgence. En tout cas, une certaine génération. Je dirais pas que les gens d'aujourd'hui sont nés avec ça, mais ça s'est terminé en 2009. Donc c'est...
Plusieurs générations qui ont vu Urgence, en tout cas.
Ouais. Et là, donc, The Pitt reprend le flambeau d'une certaine façon, en l'actualisant, évidemment. Il y a la crise Covid qui est passée par là. Mmh. C'est pas forcément la meilleure partie, d'ailleurs, de la série, les flashbacks sur le traumatisme du docteur.
Non, c'est un petit peu appuyé. Mais c'est vrai que ça brasse beaucoup de sujets contemporains. Ça parle de la crise des opioïdes. Ça parle de...
Du droit à l'avortement aussi.
Ouais, d'avortement, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si on la compare à Hippocrate, par exemple, on voit quand même un hôpital dans The Pitt qui est en bien meilleur état, en tout cas visuellement, c'est les lumières très blanches, on a l'impression que c'est un hôpital qui a quand même pas mal de budget, et malgré ça, on a des médecins qui sont vraiment à bout, qui n'arrivent plus à faire correctement leur travail, et donc c'est vraiment très très intelligent, et il y a une multitude de personnages, et vraiment on s'attache à tous ces personnages de la première à la dernière minute.
Donc la série est disponible sur Max, si je ne dis pas de bêtises, et puisque Olivier, tu parlais de nostalgie, je pense qu'il est temps aussi de parler d'une série qui a fait un grand retour, la saison 5 en tout cas, qui doit être sa saison finale, et qui est quand même une série qui a beaucoup joué sur la nostalgie, au moins au départ, c'est Stranger Things, qui est une série, moi personnellement, que j'ai adoré dès la saison 1, et qui plus ça allait, et puis j'ai commencé un petit peu à me désengager, même s'il y a une énorme attente. Est-ce que vous êtes encore dans le train Stranger Things? Est-ce que vous appréciez la première partie de la saison qui est sortie? Quel est votre rapport aujourd'hui avec cette série? On entend là le générique pendant qu'on parle. Anaïs, quel rapport tu as avec la série aujourd'hui? C'est un événement en tout cas, la saison 5.
Ouais, un petit peu comme toi. Alors moi, j'ai sauté sur le train pour la saison 5 parce que je l'avais abandonné vraiment à la saison 2, j'en avais déjà marre. Et là, plus par devoir professionnel, en fait, okay. Je me suis dit, je vais regarder, c'est la dernière saison. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Le côté horrifique est vraiment très bien développé, je trouve. Les personnages sont très attachants. Et en fait, je crois que ce qui me déplaisait au début de la série, c'était son côté référentiel, mais sans assumer non plus totalement. C'est-à-dire que c'est totalement du Stephen King, des voilà. Goonies, etc. Mais avec des clins d'œil très appuyés. Et là, ce que fait cette nouvelle saison, c'est au lieu d'avoir des clins d'œil, d'assumer totalement les références, c'est-à-dire que ça cite énormément d'œuvres pop culturelles. Et en même temps, Stranger Things, on sent aussi qu'elle a développé sa propre mythologie. Et que donc, au lieu d'aller piocher dans des archétypes qu'on a déjà vus mille fois, genre les méchants russes qui sont très méchants, etc., là, dans cette saison, j'ai l'impression qu'on pioche dans le catalogue Stranger Things qui a été développé au fil des saisons. Et ça marche beaucoup mieux, je trouve. C'est plus frais, en fait.
Oui, c'est assez auto-référentiel. Puis surtout, il y a eu une autre série un peu sur les mêmes thématiques qui est inspirée de Stephen King aussi, c'est-à-dire Bienvenue à Derry, enfin ça, qui est sorti il y a quelques semaines et qui, moi, me semblait hyper faible en fait par rapport à ce que j'ai vu là de Stranger Things. Donc ça m'a rehaussé mon désir pour Stranger Things. Et là, ce que je trouve, c'est que, bah, évidemment, c'est quand même avant tout une série sur comment les peurs enfantines se mêlent aux peurs primitives de l'Amérique, je dirais. Et là, ça devient une vraie série sur la sortie de l'enfance. Alors ça met longtemps quand même parce que les acteurs jouent des personnages qui sont beaucoup plus jeunes qu'eux. Enfin, il y a un truc très étrange sur le vieillissement de ce groupe d'acteurs et d'actrices qui sont quand même... Moi, c'est presque ce qui me fascine. J'ai l'impression de me demander, mais ils ont quel âge? Au fait, ils sont censés être adolescents? Est-ce qu'ils sont censés être... Voilà, il y a quelque chose de vraiment bizarre.
On les a connus tout petits, c'est vrai. Il y a déjà
quelques gamins. Oui, c'est ça. Et
il y en a qui ont peut-être 35 ans, les acteurs, quasiment. Donc,
non, mais c'est vrai que ça a commencé il y a 10 ans, en fait, Stranger Things. Donc oui.
Ça change. Ça, c'est vraiment la beauté intrinsèque des séries. Ça peut arriver au cinéma, mais c'est même en littérature, mais c'est quand même rare qu'il y ait quelque chose d'aussi incarné sur le vieillissement, même la fin de la jeunesse. Quoi.
Mais bon, ça marche très bien, je trouve.
Ouais, très bien. Bon, ben voilà, avis en tout cas aux personnes qui peut-être sont descendues du train au fur et à mesure. La saison 5, a priori, mérite en tout cas, voilà, vaut le coup. Et je vous propose qu'on écoute un morceau qui est vieux, mais qui a été remis au goût du jour grâce à une saison précédente de Stranger Things. C'est le morceau de Kate Bush, évidemment, Running Up That Hill, qui est rentré quand même numéro 1 Billboard 37 ans après sa sortie grâce à Stranger Things, vous l'entendez. Et on se l'écoute, évidemment, parce que c'est toujours cool d'écouter Kate Bush. You and me. Kate Bush avec Running Up That Hill, morceau culte et qui donc a été remis au goût du jour par une des saisons de Stranger Things.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et on parle de Stranger Things car aujourd'hui on parle des séries qui ont fait l'année 2025, il y en a eu énormément. Et peut-être qu'on peut parler d'une série que tu as, je crois, beaucoup appréciée, Anaïs. C'est une série de l'univers Star Wars. Mmh. C'est vrai que Star Wars, c'est quelque chose qui, bon, évidemment, c'est une saga que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, bon, il y a des films, mais il y a aussi beaucoup de séries. Mandalorian avait été aussi une série qui avait plutôt été saluée, notamment la première saison. Et là, maintenant, on a cette saison donc, qui est Andor, que je n'ai pas vue non plus. Je ne sais pas comment vous faites pour tout regarder.
On dort pas.
Mais vous ne dormez pas, voilà, exactement. Mais qui, je crois, elle aussi a été saluée, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui dans l'univers Star Wars. Il y a beaucoup de séries. Rares sont celles, quand même, qui sont vues comme des belles pièces, en tout cas de télévision. Pourquoi Andor est à voir, selon toi?
Moi, je dois démarrer par le fait que je ne suis pas une grande fan de Star Wars à la base, donc je pense que c'est vraiment une série qui peut être appréciée par tout le monde.
Ce qui est déjà un bon point, en fait.
Moi, ce qui m'a convaincue, c'était d'entendre d'autres personnes en parler, donc je l'ai attrapé alors qu'il y avait déjà quelques épisodes qui avaient été diffusés. Et ce qui est génial, c'est que l'univers Star Wars est utilisé pour raconter quelque chose d'assez complexe. Au final, Star Wars a toujours été un univers très politisé, mais aussi peut-être un peu enfantin. Notamment dans les films, en tout cas les premiers films. Et là, le format série permet de creuser encore plus cet univers et toutes les ramifications politiques, en fait, qui ont mené à la domination de l'Empire et à la résistance qui s'est créée, puisque c'est une série prequel donc, qui arrive avant les événements de Rogue One, était le film.
Rogue One est un des films récents, on va dire globalement, qui est sorti sur les dernières années et qui est un des rares aussi qui a été vraiment salué et vraiment aimé, qui pour moi a été un des meilleurs dans ceux qui sont sortis les dernières années. Et donc c'est assez proche de Rogue One. D'ailleurs, on a un personnage qu'on retrouve qui était dans Rogue One.
Le personnage principal, qui est joué par Diego Luna. Et Rogue One, c'était un film de casse, donc il y avait ce côté un peu thriller à la Soderbergh.
Et qui se passait avant l'épisode 4, en fait, avant la guerre des étoiles, je crois, c'est ça, avant premier film, je crois que c'est ça, avant le tout premier film de George Lucas.
Moment où tu me perds la mythologie Star Wars.
Pour les gens, effectivement, je crois que c'est vraiment censé être c'est le plus vieux, là même Andor, je crois que ça se passe, c'est vraiment le début finalement de l'origine,
c'est l'univers Star Wars. C'est le prequel du prequel, et donc en fait, on peut voir des personnages qu'on va retrouver dans le reste de la saga, mais qui n'en sont vraiment qu'aux prémices de ce qu'on va voir après. Et il y a beaucoup d'intrigues politiques, donc en fait, c'est une série, certes, c'est une série Star Wars, mais qui est aussi au fond un thriller politique très très fin, un thriller d'espionnage avec des performances incroyables. On a Stellan Skarsgård notamment qui joue un espion qui a des monologues absolument renversants. Il y a un peu de film noir, il y a des séquences d'action qui sont très maîtrisées et il y a la construction d'un univers qui est vraiment fascinant avec chaque monde, chaque planète qui est très bien développé avec je sais pas les céréales qui se mangent avec du lait bleu par exemple, enfin des petits détails comme ça qui sont hyper bien choisi, et des acteurs aussi que moi je connaissais pas forcément avant, mais que j'ai découvert dans cette série et qui sont géniaux, et notamment le grand méchant, alors là évidemment son nom m'échappe, mais celui qui joue en fait un des cadres de l'Empire, qui est donc plutôt antipathique, mais qui est aussi très très développé dans la série, et donc on peut voir en fait tout son système de pensée, toute son idéologie, et donc c'est une série qui est extrêmement intelligente, beaucoup plus en tout cas que ce que j'aurais imaginé en allant dans une énième série Star Wars.
Donc ça, c'est disponible sur Disney+, comme tout Star Wars. Maintenant, Olivier, t'es dans Star Wars ou t'en as marre, toi, de Star Wars?
Je suis pas... Je trouve ça intéressant, Andor, mais j'ai quand même l'impression que ça clignote partout. Attention, je suis une série pour adultes, je suis une série qui ne va pas infantiliser son spectateur. Donc tout le monde met 15 secondes à entrer dans une pièce avec un plan magnifique, sous-éclairé. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre des afféteries de mise en scène que je trouve un peu déstabilisant quand on est... Et par ailleurs, les métaphores politiques sont très claires sur l'état du monde contemporain, et ça, c'est plutôt courageux que ça, enfin, c'est plutôt intéressant que ça arrive à cet endroit-là, quoi. Donc, dans quelque chose d'extrêmement grand public comme ça. Mais ça m'a fait un peu penser aussi à, aux dunes de Villeneuve, quoi. C'est-à-dire des.
Quand t'aimes pas
Dune un peu, ben, j'aime pas du tout le
Dune. Toi non plus, t'aimes pas Dune.
Ah si, moi j'adore.
Ah ouais, j'ai eu peur, j'ai dit vraiment.
Mais il y a quelque chose de surthéâtralisé dans ces choses-là.
Trop sérieux, en fait.
Qui me plombe, en fait, vraiment.
Ok. Je vois ce que tu veux dire. mais j'avoue, dans Dune, je trouvais ça.
Il faut voir Andorre, alors, parce que tu vas vraiment.
Ouais, mais j'ai envie de voir Andorre, la question. Ouais, complètement. Et autre série que tu as recommandée, Anaïs, et que j'ai vu qu'une série qui est disponible sur Netflix, qui je crois est un remake d'un film des années 80 avec Alan Alda, qui d'ailleurs fait un caméo dans le premier épisode, je crois, c'est Les 4 saisons, c'est une série de Tina Fey, l'incroyable Tina Fey, avec Lang Fisher et Tracy Wickfield, si je ne dis pas de bêtises, à la création, et enfin la distribution, on retrouve entre autres Steve Carell, que tu as cité d'ailleurs tout à l'heure, Coleman Domingo et d'autres, et c'est une série qui suit trois couples au sein donc de 4 saisons, qui est une série plutôt drôle, même s'il y a des moments un peu plus tragiques. Ça aussi, c'est une série qui t'a accompagné cette année.
Oui, en fait, j'ai trouvé que c'était une série très plaisante. Il y a un côté presque désuet dans la mise en scène. C'est très, très simple et c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir maintenant des séries avec une mise en scène qui pète. Comme tu disais, Olivier, c'est ces grands plans larges qui durent des plombes, tout ça. Et là, on est plus dans le langage de la sitcom, limite, mais avec une écriture qui est quand même plutôt fine, d'excellents interprètes, et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir, tous ces couples qui traversent un peu une crise existentielle.
Ouais, chacun de manière différente, exactement.
Voilà, puisque c'est plutôt des couples alors, un bon niveau de vie, qui sont plutôt quinquas, et donc qui...
Plutôt bourgeois, globalement, qui vivent bien.
C'est ça, et donc ils font face à des problématiques qui peuvent intervenir justement à cet âge-là dans un couple, quand on s'ennuie, qui a la routine... qu'il y en a peut-être un qui a envie d'aller sortir avec une femme plus jeune, etc. C'est très amusant. Coleman Domingo, notamment, est excellent. Voilà. Et en même temps, c'est une série qui a beaucoup de cœur. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était justement dans un univers sériel qui parfois semble trop sérieux, quelque chose de très doux et très réconfortant. Donc, c'est un très bon souvenir que j'en garde de cette année dans toutes les séries que j'ai vues.
Bon, on continue à parler des séries 2025 tout de suite dans La Régulière. Et dans la flopée de séries importantes cette année, on est obligé de parler de la dernière saison de The Bear avec Jeremy Allen White. D'ailleurs, que j'ai découvert récemment, parce que j'ai enfin commencé à regarder Shameless sur Netflix, donc il y a 11 saisons, et il était là, dedans, tout jeune en fait. Comme je découvre Shameless bien en retard, qui est une série incroyable par ailleurs, je vois qu'en fait il était là depuis longtemps avec William H. Macy. The Bear, est-ce que vous avez regardé cette dernière saison? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est vraiment quelque chose dont on a beaucoup, beaucoup parlé. Olivier, je te sens un peu. Non, t'as pas aimé?
Ah si, moi j'étais sur le starting block, j'y suis toujours, j'étais ravi quoi, vraiment, j'adore la cuisine. Okay. Et les séries, donc c'est vraiment...
Et parce que c'est une série, effectivement, on est dans une cuisine, en fait, tout le temps.
C'est deux amours à la fois, c'est un restaurant de Chicago. Là, cette année, c'est donc un restaurant qui est censé être, avoir l'ambition d'une étoile. Mais au fond, la série parle assez peu de cuisine au sens... Enfin, il n'y a pas de recette, quoi.
Oui.
On ne va pas nous apprendre à cuisiner devant The Bear. On va nous apprendre à être une communauté humaine, peut-être. Il y a quelque chose de l'ordre de la...
Le
restaurant, comme... à communiquer, à se parler, à exister ensemble, à se faire confiance. Il y a beaucoup de choses très, très belles. C'est une saison assez marquante, parce que... Enfin, surtout pour moi, j'étais très gêné de quelque chose, c'est-à-dire qu'elle est construite comme une dernière saison. Là, t'as dit dernière saison, mais ça pourrait être vraiment la vraie dernière. Et en fait, je crois qu'il y a une suite, il y a quelque chose qui se passe, alors que la saison va tout droit vers quelque chose qui serait la disparition de son personnage central, d'une façon ou d'une autre. Et moi, je trouve ça toujours très beau dans les séries, quand on enterre un personnage, de quelque manière que ce soit. Et donc là, c'est juste ça qui me retient un peu de voir la suite, mais sinon, c'est quand même une grande série à la fois très, très humaine sur la nécessité du lien et extrêmement mélancolique sur la grande impossibilité qu'on a à se parler la plupart du temps.
Anaïs, ça t'a plu aussi?
Moi, j'en ai un petit peu marre de The Bear et notamment du personnage principal, donc je suis ravie qu'on l'enterre, je n'attends que ça. J'ai adoré le début de The Bear et je trouve qu'effectivement, ce qu'il y a de plus beau dans cette série, c'est à quel point elle parle de la communication, la difficulté de la communication et comment on essaye de trouver des nouveaux systèmes, justement, parce que c'est quand même un groupe de personnages qui ne savent pas du tout communiquer à la base. Donc ça crie beaucoup, ça peut être un peu éreintant de regarder ça. Mais je pense que la série commençait avoir un problème avec ce personnage principal qui prend beaucoup de place sans beaucoup progresser, en fait, narrativement. Donc je pense que c'est une bonne chose qui s'efface.
Moi, je suis pas là pour regarder des séries pour voir des personnages progresser, quoi. On n'est pas au tennis, quoi. Non, mais c'est un peu, c'est un truc. Non, mais là, je dis juste ça parce que je trouve que c'est beau de regarder des gens vivre. Et c'est quand même ça, les séries.
Oui.
Vivre, vieillir, répéter les mêmes erreurs. Les sitcoms, c'est
que ça. Mais je trouve que The Bear le fait pas aussi bien qu'une Mad Men qui voit des personnages faire les mêmes erreurs de saison en saison, mais avec quand même quelque chose qui évolue, tu vois. Là, moi, je commençais à me lasser.
Ça a été réglé cette saison-là. Moi, je la trouve particulièrement peut-être mieux que la précédente, en fait.
Je suis d'accord. Pour le coup, en fait, je trouve que ça remonte un petit peu. La précédente, pour moi, c'était la plus grosse faiblesse de toute cette série. Donc, j'ai quand même hâte de voir où ça va aller. Et je trouve que si on fait abstraction de ce personnage et de Claire Bear, que je ne supporte plus non plus, son intérêt romantique, en fait, toute cette intrigue, si on s'en débarrasse, ce que je retiens, c'est une collection de personnages secondaires, mais pas tellement, puisque c'est une série d'ensemble, qui, eux, sont vraiment exceptionnels. Et j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se produire avec ces autres personnages. Et j'adore notamment celui de la sœur, Nathalie, je crois qu'elle s'appelle, qui était pour moi la star de cette dernière saison, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite.
Alors, Olivier a dit que ça pourrait être la dernière saison de The Bear, parce que ça, finalement, c'était une fin assez jolie pour ce personnage-là.
Un épisode final génial.
Alors, je me pose une question pour vous, et là, on n'est même pas dans l'année 2025, plus largement. Est-ce que vous avez... Quelles sont pour vous les séries qui finissent le mieux ? Parce qu'on a toujours un problème, enfin pas toujours, mais souvent, beaucoup de séries ont un problème avec la fin, parce qu'en fait, on n'a pas forcément pensé à la fin quand on a commencé à écrire. On va pas reparler de Lost, hein, et de la fin de Lost, par exemple, mais quelle...
Moi, j'aime bien la fin de Lost, je vois où est le problème.
Moi, je l'envoie 10 000 des problèmes, mais c'est pas le sujet. Mais quelle est pour vous, ça peut être Lost, mais une série qui finit bien ?
Alors moi j'ai la réponse directe, c'est The Americans, qui est une série génialissime et dont tous les épisodes, je dirais, sont assez brillants. Et ce qui est fou, c'est que le dernier épisode est aussi sans doute le meilleur épisode d'une série qui a fait quasiment un sans faute du début jusqu'à la fin. Ça parle d'espions du KGB qui sont sous couverture aux États-Unis dans les années 80. Et le dernier épisode de The Americans, pour moi, est un pur chef-d'œuvre. Je me lasse pas de le revoir et je trouve ça très très fort pour une série d'une telle qualité d'arriver à se surpasser dans ces derniers instants.
Ce qui n'est pas souvent le cas, en fait. Et toi, Olivier,
La fin, c'est... Non. Provocateur.
Non, mais je sais pas.
C'est une réputation à maintenir, quand même.
Disons que c'est un sujet qui me passionne parce que c'est le sujet des séries. En fait, c'est le sujet spécifique aux séries. Parce qu'une série, quand elle commence, c'est pour ça que j'aime moins les mini-séries, on ne sait pas quand elle va se terminer. Y compris son créateur, y compris ses acteurs. Il y a quelque chose de toujours renouvelé dans une série jusqu'au moment où ça s'arrête. Donc c'est extrêmement proche de la vie, quand même, de ce point de vue-là. En tout cas, dans le scénario général. Et donc, pour moi, le grand classique, c'est quand même Six Feet Under qui projette les personnages jusqu'au jour de leur mort dans une séquence finale qui est vraiment mythique, je pense, dans la culture populaire mondiale. Ça fait déjà une vingtaine d'années. Donc, et j'aime beaucoup The Americans aussi. J'ai bien aimé la fin de Friends aussi, avec les clés ça qu'on laisse.
Et The Leftovers aussi, on va peut-être se faire gronder si on ne cite pas The Leftovers.
Et je trouve aussi que Breaking Bad avait une vraie fin.
C'est vrai. Un peu scolaire à mon goût.
Un peu scolaire, mais au moins ça se finissait, ce qui n'était pas toujours le cas d'autres très grandes séries où les fins n'étaient pas toujours au niveau. Bon, je propose qu'on écoute un morceau. En tout cas, on va écouter une collision frontale entre deux univers. D'un côté, Gorillaz, groupe mythique. De l'autre, Idols, un punk un peu plus viscéral. Le résultat, c'est le morceau God of Lying, un morceau qui sera présent sur l'album The Mountain de Gorillaz. Nouvel album donc prévu pour mars 2026.
Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Yeah.
Father, anoint by fear of death. Do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me.
The Idols, The God of Flying, présent donc sur le prochain album de Gorillaz.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Je suis avec Anaïs Bordage et Olivier Joyard donc pour parler des séries de l'année 2025. Alors évidemment, toutes les séries, hein, toutes les références seront sur les sites Radio France, qu'on a quand même cité pas mal de choses.
C'est vrai.
Et encore, il y a énormément de choses qu'on aurait pu citer. Et par exemple, on n'a pas parlé de séries françaises. Il y a quelques séries en tout cas dont on a pu parler cette année. Et je pense notamment à une série, je crois, qui t'a plu, Olivier, c'est Empathie de Florence Lompré avec notamment Thomas Ngijol. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette série? Je crois qu'Anaïs a commencé à regarder aussi Empathie, donc si tu veux
c'est
réagir,
ça,
évidemment.
Fini, mais...
Peut-être c'est parce que c'est pas vraiment une série française, parce qu'elle est plutôt québécoise.
Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est pour ça que t'as
c'est
aimé.
Florence Lompré. Je sais pas, c'est mauvais esprit. Non, j'ai pas tant aimé que ça, je trouve qu'elle est importante. C'est un peu différent. Okay. En fait, il y a des séries qu'on peut regarder avec un œil comme ça, à la fois professionnel, personnel, intime. C'est une série sur la psychiatrie, sur une psychiatre qui soigne des malades qui sont extrêmement atteints dans une aile vraiment dure d'un hôpital psychiatrique et elle-même traverse quand même des moments ultra difficiles dans sa vie. Et tout ça, et voilà, il y a le personnage de Thomas Ngijol qui arrive autour de ça et qui essaye de la remettre un peu à la fois dans la réalité et puis de l'accompagner dans sa souffrance tout en... Voilà, donc c'est quelque chose de très fin et de très délicat et qui correspond vraiment parfaitement à l'époque. C'est ça que je trouve assez fort. C'est-à-dire qu'elle a touché quelque chose, et moi j'en ai entendu parler beaucoup de fois par des gens hyper différent. Donc je me suis dit que c'était vraiment le signe d'une réussite. Après, je trouve que sur la maladie psychiatrique, bon, quand on a vu quelques documentaires un peu bien faits sur la question, on se rend compte, ou quand on l'a côtoyé des médecins ou des personnes malades, on se rend compte que ça reste quand même une sorte de petit conte de fées, même si c'est extrêmement violent par moments. Donc voilà, je trouve que c'est quand même fort quand une série comme ça touche à des problèmes qui sont tellement universels autour de la santé mentale aujourd'hui, précisément.
Je crois qu'il y a une autre série un peu, enfin, dont le sujet n'a rien à voir, mais t'as peut-être un avis similaire, c'est Des Vivants, de Jean-Xavier de Lestrade, qui, je crois, aux séries aussi que tu apprécies, même si t'as des réserves, mais tu la trouves là aussi importante.
Je suis d'accord, et en fait, elle parle quasiment, enfin, elle parle pas de personnes psychiatriquement malades, quoique, mais ça parle du stress post-traumatique, puisque ce sont des survivants du Bataclan.
Exactement.
Du 13 novembre 2015, qui sont restés plusieurs heures dans un couloir à l'étage, qui ont été donc en contact avec les terroristes, qui ont discuté avec eux. Et la série raconte les années qui ont suivi à partir du Bataclan, le lien amical qu'ils et elles ont formé, alors certains, pas tous, qui s'appelle les potages, voilà, les otages et potes. Et c'est une série de Jean-Xavier de Lestrade qui a fait beaucoup d'autres séries absolument brillantes, comme Laetitia, par exemple, il y a quelques années, qui est à la base un documentariste et qui travaille donc le réel. Et le réel qui devient un peu romanesque ici. La série a quelques limites et un petit côté Friends post-Bataclan qui est un peu gênant par moments, parce qu'il y a vraiment de longues scènes de discussion dans des cafés où ils s'échangent leurs problèmes personnels pendant des années. Mais elle raconte quand même qu'est-ce que c'est de se prendre ça, ce qui est indicible, presque irracontable en réalité, et d'en faire quelque chose qui nous accompagne au quotidien, comme les séries d'ailleurs nous accompagnent au quotidien. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment une des séries les plus importantes de l'année en France, en tout cas.
Alors, on parle de 2025. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2026? Anaïs, est-ce que tu as des attentes particulières?
Tout à fait. Alors déjà, la saison 2 de The Pit.
Oui.
Meilleure série de l'année 2025, voilà. Et j'attends aussi beaucoup la nouvelle saison d'une série qui s'appelle Industrie, qui nous a beaucoup manqué cette année et qui aurait sans doute été dans le top s'il y avait eu une saison cette année.
Qui se passe à Londres, dans la finance.
C'est ça, dans la finance, avec une équipe plutôt jeune qui sortent d'études et qui ont les dents qui rayent le parquet et donc qui vont être confrontés à ce monde très très particulier de la finance. C'est une série HBO aussi et c'est une série qui est totalement l'héritière de Mad Men, qui se passe de nos jours, mais qui est aussi une série de bureaux avec des personnages qui sont assez cruels, très imparfaits, qui développent des relations très très complexes au bureau, qui vont se trahir, se contre-trahir à coups de promotion, délation, etc. Et c'est complètement fascinant. Moi qui ne sais vraiment quasiment pas compter et toujours eu des très mauvaises notes en cours d'économie, etc. Je comprends pas
c'est
toujours
pas
ce qu'ils racontent.
Ouais.
Voilà. Et en fait, c'est pas grave. Je ne comprends pas tout le jargon financier qu'ils utilisent. Mais c'est une série qui est obsédante en fait. La musique aussi est très très forte. C'est très immersif et donc j'ai très très hâte de voir ce que les deux scénaristes, Conrad Kay et Mickey Down, vont faire pour cette nouvelle saison.
Et les séries dérivées inspirées de Game of Thrones, House of Dragons, ça vous excite ou? Ou non, pas plus
que ça. Tant que ça. Non, la perspective de passer des heures encore devant ça.
Devant des dragons.
Non, mais en fait, si c'est bien, moi je suis partante. Pourquoi j'ai vraiment beaucoup aimé Game of Thrones, donc j'aimerais retrouver les plaisirs qu'on a eu devant Game of Thrones, notamment les cinq premières saisons. Mais House of the Dragon, je trouve que pour l'instant, c'est pas terrible. Et donc, j'ai un peu perdu les attentes que j'aurais pu avoir pour ce genre de série.
Moi, il y a une série, c'est Scrubs. Scrubs qui revient.
Oui, qui revient. Donc une série mythique des années 2000, je crois. C'est ça.
Donc une série médicale, une comédie.
Ouais.
Ça, j'ai assez envie de voir ce que ça peut donner. On est à une époque où les plateformes cherchent ce qu'on appelle le contenu, c'est-à-dire tout et n'importe quoi pour nous nourrir le plus possible et pour nous faire nous rester abonnés.
Ouais.
Et là, il y a beaucoup de spin-off. Enfin, Dexter n'en finit pas de mourir.
Malcolm va revenir aussi, je crois.
D'accord.
Ouais. Voilà.
Oui, c'est ça.
Rien ne meurt jamais dans l'univers des séries.
Exactement. Ça devient une espèce de mode en fait en ce moment, encore plus qu'avant.
On verra en tout cas ce qu'on aura en 2026, mais tout de suite, c'est l'heure de la question qui tue. La question est simple, pour vous, quelle est, vraiment, je vais y aller, on va y aller direct, hein, quelle est la plus grande série de tous les temps?
Waouh.
Ah oui.
Ok. C'est très très
bien. Il faut répondre.
Ah oui, il faut répondre.
Pourquoi c'est pourquoi tu me regardes, Anaïs?
C'est tout de suite. On n'a pas beaucoup de temps.
Je vais dire un truc. Tout le monde n'a pas vu peut-être Friday Night Lights.
Non.
Alors, j'ai pas vu, mais je sais de quoi tu parles. Mais j'ai pas vu.
C'est l'occasion.
J'aime
c'est avec, comment s'appelle cet acteur?
Kyle Chandler,
exactement.
Et Connie Britton aussi.
Et comment s'appelle la série dans laquelle il jouait dans les années 90 où il recevait le journal tous les matins?
Je me souviens plus.
Sur M6. Tu vois de quoi demain à la une, on me dit demain à la une.
Merci.
J'adorais cette série avec le chat qui lui apportait tous les matins et du coup il sauvait la journée. Mais c'est pas ton choix.
C'était vraiment un chef-d'œuvre pour moi, Friday Night Lights. C'est sur une petite ville dans le Texas où tous les vendredis soirs il y a un match de foot américain, donc de l'équipe du lycée local. Et bah, c'est à la fois tout petit et extrêmement ample dans les sentiments. C'est une série qui a inventé Michael B. Jordan comme acteur. Qui
était dans The Wire avant.
Alors,
il y avait un petit rôle, il jouait Wallace.
Voilà, on peut dire qu'il s'est vraiment révélé aux yeux du monde et il est devenu la star qu'il est aujourd'hui grâce à cette série. Et qui a une sorte d'empathie énorme pour tous les personnages, tous à égalité, et qui était filmé presque en improvisation, caméra à l'épaule. Donc c'est vraiment fantastique.
Non mais si on parle de plus grandes séries tous les temps, je suis obligé de citer The Wire, modestement. Anaïs,
oui,
toi?
Oui. Bah, c'est extrêmement cruel comme question.
Bien sûr, c'est la question qui tue.
Mais peut-être un choix qui pourra surprendre aussi, je vais dire Buffy contre les vampires, de Joss Whedon, parce que je pense que c'est une série qui est très sous-estimée, qui a été vue par les Français pendant la trilogie du samedi, considérée comme peut-être un peu enfantine ou méprisable sur certains plans, alors que c'est une des séries les mieux écrites de l'histoire de la télé. Il y a énormément de répliques cultissimes, c'est très 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 intelligent, et c'est toujours un bonheur de revoir les épisodes, y compris à l'âge adulte. Donc si vous penser que Buffy contre les vampires n'était que la série de la trilogie du samedi.
C'était bien
pas.
Plus que ça. Voilà. Ouais. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Olivier Joyard, merci Anaïs Bordage, c'est un plaisir de vous avoir. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission. Alexia Lacour, Redouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir, c'était Alex Olaré, Vajou Otinois et Pauline Laverdure. Merci aux équipes web et vidéo. Et demain, nous rediffuserons notre émission avec Oxmo, Puccino et Turi pour découvrir, redécouvrir nos émissions. Abonnez-vous sur l'application Radio France. Merci.